diffusion de nos programmes va maintenant se poursuivre en français.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission du samedi de Radio Prague préparée par la rédaction de Radio Prague et présentée aujourd'hui par Anna Kubišta. Une émission avec trois rubriques qui parleront aujourd'hui de poésie, de littérature enfantine et puis également de l'enseignement du français, notamment à l'étranger, dans le cadre d'une rubrique spéciale. On commence tout de suite avec Culture sans frontières. Comment décrire Teresa Riedelbauchova, poète, enseignante, éditrice, chercheuse? La jeune femme multiplie et décline les activités autour de sa passion, la poésie. Les quatre recueils qu'elle a publiés jusqu'à présent révèlent une langue imagée et un goût pour l'intime. L'atmosphère confidentielle de ses poèmes se retrouve dans les soirées artistiques qu'elle organise dans son appartement. Du charme désuet de ses salons littéraires est né un nouveau projet, une maison d'édition. Personnage incontournable de la vie littéraire pragoise, Teresa Riedelbauchova a aussi conquis la capitale française. Durant ses 5 années passées à Paris, elle n'a eu de cesse d'œuvrer à la collaboration littéraire entre les deux villes. Elle souhaite aujourd'hui développer une collection bilingue franco-tchèque, rencontre avec une jeune femme pleine d'avenir, interrogée par Pauline Darvet.
Culture sans frontières.
Teresa Riedelbauchova, bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui dans votre appartement dans le quartier de Žižkov. Vous êtes l'auteur de plusieurs recueils de poésie, vous organisez également des salons littéraires et vous avez ouvert il y a peu une petite maison d'édition à Prague. Alors autant dire que vous êtes un personnage important de la scène littéraire tchèque. Première question, somme toute assez banale mais pourtant importante. Comment avez-vous commencé à écrire de la poésie et pourquoi, si tant est qu'il y a une raison?
Donc, j'ai commencé à écrire, pas vraiment la poésie, mais les nouvelles, quand j'étais assez petite, à l'âge de 11 ans. Et j'ai passé toujours tout l'été en écrivant et en lisant. Donc, je pense que j'étais un peu née comme ça, avec l'écriture. Mais j'ai commencé à écrire à l'âge de 15 ans. Et tout ce que j'ai publié, c'est à partir des textes que j'ai écrits à 18 ans.
Votre poésie peut, semble-t-il, être qualifiée d'intimiste. Alors, est-ce que vous trouvez votre inspiration dans le quotidien? Et est-ce qu'on peut dire que votre poésie consiste précisément en une esthétisation du quotidien?
Oui, je pense que vous avez bien remarqué, j'esthétise pas mal le quotidien pour moi. C'est important, en fait, de un peu retourner vers le passé, enchaîner sur la littérature classique, métaphorique. Parce que je trouve que dans la poésie contemporaine, surtout tchèque, c'est plutôt la poésie du quotidien assez simple, sans beaucoup d'expressions, sans beaucoup de métaphores. Et moi, je préfère plutôt d'esthétiser, de renouveler même un certain pathos, ou le mythe, etc.
Une femme qui écrit de la poésie et qui traite de l'intime, est-ce que c'est courant en République tchèque? Est-ce qu'on peut qualifier votre poésie d'écriture féminine?
En fait, je sais que la plupart de poétesses tchèques n'aiment pas du tout d'être classifiées comme la poésie féminine ou l'écriture féminine. Mais dans mon cas, je n'ai rien contre. Je pense que mon écriture est assez féminine, elle est intime aussi, mais en fait pour moi c'est en fait quelque chose dans mon destin personnel doit s'ouvrir et exprimer un geste plus général.
Parlant de poésie intimiste, vous aviez d'ailleurs remis au goût du jour le concept de salon littéraire. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroulent ces salons et est-ce que vous pensez que poésie et salon font bon ménage?
Alors j'ai commencé parce que j'ai fait dans la recherche littéraire, je me suis consacrée au 19e siècle et ça m'a inspirée beaucoup parce que j'ai travaillé aussi les manuscrits d'une dame qui menait les salons littéraires à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Donc je me suis dit j'aimerais essayer quelque chose comme ça dans nos jours, même si ça paraît un peu hors temps. Parfois, j'entends des critiques que c'est bizarre de faire un salon dans notre temps assez moderne. Et Mais pour moi, c'était plutôt vraiment d'ouvrir l'espace où je vivais pour les écrivains, les artistes, de leur proposer en fait de passer avec moi une soirée avec l'art, avec leur art, en regardant aussi la place de leur état, parce que c'était bien placé l'appartement où j'ai habité. Et un peu sortir du quotidien, de vivre quelque chose d'exceptionnel, parce qu'il y a beaucoup d'événements dans des cafés littéraires, mais dans le privé, ça n'existe pas beaucoup. Mais en ce moment, je ne sais pas si je vais continuer ou pas. Il y a beaucoup de gens qui me demandent de continuer, mais comme j'ai déménagé, je ne sais pas encore si je vais continuer.
Donc on peut voir que vous êtes une passionnée de littérature tchèque, et vous avez d'ailleurs obtenu un doctorat de littérature tchèque à l'Université Charles, mais vous avez aussi étudié le français, donc vous avez habité à Paris pendant 5 ans, et vous avez été aussi lectrice à la Sorbonne. Alors pourquoi avoir choisi le français? Est-ce que c'est la littérature française ou les fameux salons littéraires à la française qui vous ont attiré?
Moi, j'ai grandi ici à Prague, à la proximité d'une famille bilingue. La famille Parlenček, il est musicien. Sa femme, elle est française, elle enseigne l'histoire. Donc moi et ma sœur, nous avons grandi avec de garçons qui ont parlé en fait tchèque et français, et c'était une famille aussi très très culturelle. Donc depuis mon enfance, j'ai vécu un peu la culture française ici à Prague, et mon père, il s'intéressait aussi toujours pas mal à la musique classique française, même la musique classique contemporaine, et à la poésie, à la littérature. Donc on était nourris en fait de la culture française depuis mon enfance.
Paris et Prague sont deux villes qui ont toujours fasciné les écrivains et les artistes. Donc vous avez eu la chance d'avoir vécu dans ces deux villes. Alors est-ce que ces deux villes ont une influence sur votre création, et comment est-ce que vous les décririez?
Bien sûr. Donc Prague, elle apparaît surtout dans mon quatrième recueil, Don Vítor si hraje a iné básně. On peut traduire comme Don Vítor joue et autres poèmes. Et à la fin déjà de ce recueil, il y a quelques réflexions, quelques poèmes qui sont inspirés de mes débuts à Paris. Après, je reflète beaucoup dans la poésie tout ce que j'ai vécu à Paris, ou bien pendant beaucoup de voyages que j'ai fait pendant les dernières années. Et surtout, je pense que ça serait le plus remarquable dans des nouvelles que je suis en train de commencer. Parce que là, je veux vraiment refléter la vie entre ces deux villes. Mais ça, c'est encore à écrire et à voir ce que ça va donner.
En parlant de Paris, on peut dire qu'à l'exception de Milan Kundera, la littérature tchèque reste assez méconnue en France. Et en règle générale, les productions artistiques tchèques ou d'Europe centrale, qu'elles soient littéraires, cinématographiques ou musicales, sont très peu diffusées en France et en Europe occidentale. Et donc, pensez-vous que plus de 20 ans après la chute du mur, on peut dire que l'Europe est toujours d'une certaine façon coupée en deux? Czesław Miłosz parlait, pour décrire l'Europe centrale, de l'autre Europe. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce concept est encore d'actualité, selon vous?
Oui, en fait, je pense que, bien sûr qu'il y a beaucoup de changements en Europe centrale et en Europe de l'Est. Mais je trouve qu'il y a quand même toujours une grande différence, et que, par exemple, si je parle concrètement de la République tchèque, je trouve que c'est quand même encore assez fermé culturellement, qu'il n'y a pas encore énormément d'échanges et d'échanges internationaux. Et que ça va encore durer longtemps avant que Prague va devenir une vraie ville internationale. Je pense qu'il faut vraiment encore faire une grande ouverture vers l'Europe de l'Ouest.
Vous avez justement organisé plusieurs festivals littéraires entre la France et la République tchèque. Alors, pensez-vous que la littérature tchèque va pouvoir intéresser la France?
Oui, je pense que oui. Parce que les Français, les poètes français qui sont venus ici à Prague, ils étaient vraiment fascinés par la ville, par le festival, par la littérature tchèque. Et je pense que de leur côté, il y avait beaucoup plus d'ouverture. Deux poètes jeunes françaises, elles ont créé une revue littéraire consacrée à la jeune poésie à Vers. Elle contacte toujours les Tchèques, elle demande de publier les poèmes, elle veut continuer de réaliser des projets ensemble. Donc je pense que du côté français, des jeunes, en fait de la jeune poésie, de la jeune littérature, il y a quand même pas mal d'intérêt sur le côté français, bien sûr aussi sur le côté tchèque. Mais comme j'ai déjà remarqué, je pense que les Français sont beaucoup plus ouverts vers les projets internationaux que les Tchèques.
Vous avez récemment ouvert une petite maison d'édition qui s'appelle Literarni Salon. Quel type d'ouvrage publiez-vous ?
Alors, en fait, cette petite maison d'édition, des dérivés, des lectures que j'ai organisées dans mon appartement, parce que j'ai rencontré des gens qui écrivaient des bons textes, mais qui n'arrivaient pas de trouver les éditeurs. Donc, j'ai commencé à publier surtout les gens ou les poètes qui fréquentaient régulièrement ces lectures. Et après, ça s'est élargi. Donc, j'ai commencé à recevoir des textes ou j'ai cherché moi-même des auteurs, etc., etc. Mais il s'agit surtout des poètes entre 25 et 40 ans qui débutent en poésie. Là, en fait, cette année, il y a un changement que j'ai fondé. Je crée encore un autre format qui est plutôt pour les auteurs déjà renommés. Donc, c'est quelque chose qui commence cette année. Et à partir de l'année prochaine, je vais faire encore l'édition bilingue. Et justement, le premier livre sera publié avec une maison d'édition parisienne en version franco-tchèque.
Le deuxième congrès européen des professeurs de français se tiendra à Prague la semaine prochaine, de jeudi à samedi. 5 ans après Vienne, la capitale tchèque accueille cette prestigieuse rencontre dont le principal objectif pour les organisateurs comme pour les participants et en premier lieu les professeurs de français et les spécialistes de la langue et de l'éducation en provenance de toute l'Europe sera d'abord d'initier la mise en place d'une politique commune européenne pour le français. Un aspect sur lequel nous reviendrons dans nos émissions la semaine prochaine, Radio Prague étant un des partenaires médiatiques du congrès. Mais avant cela, Doina Spita de la Fédération internationale des professeurs de français, organisatrice du congrès, a répondu aux questions de Radio Prague et en tant que présidente de la commission pour l'Europe centrale et orientale de cette même fédération, Doina Spita a d'abord expliqué au micro de Guillaume Narguet le choix de Prague.
Alors le premier congrès européen des professeurs de français a eu lieu à Vienne, comme vous avez compris. Le congrès européen réunit les deux commissions Europe, à savoir la commission pour l'Europe de l'Ouest, dont Vienne faisait partie, et l'Europe centrale et orientale. Donc on s'est orienté vers d'abord, c'était une raison, un premier tri, un pays appartenant à l'Europe centrale et orientale. Ensuite, on a eu plusieurs candidatures, donc l'appel avait été lancé auprès de notre commission seulement, et on a eu plusieurs candidatures. Alors pourquoi Prague parmi les candidatures présentées? D'abord par la force de l'association locale. Ils mettent en place tous les ans divers événements à caractère scientifique, dont un devenu traditionnel. Ça, c'est important. Ensuite, parce qu'il y a un soutien de très grande qualité ici à Prague, à savoir l'ambassade de France et l'Institut français qui sont vraiment, on trouve, très efficaces. Pour tout ce qui est l'enseignement du français. Et une troisième raison, parce que c'est très bien placé au centre de ce monde qui est le monde européen, ça veut dire accès facile. Donc une dernière raison, disons dans une perspective pragmatique, c'est accessible, c'est central, et puis c'est tellement riche en valeurs culturelles, donc très 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 attrayant.
Que savez-vous de la place du français en République tchèque?
On sait que comme partout dans le monde, ou dans la plupart des pays, le français a baissé ça veut dire le nombre d'apprenants choisissant le français est en baisse par rapport à l'anglais. Si je me place à nouveau dans une perspective pragmatique, alors quel est le monde de demain qui existe déjà, qui se dessine depuis aujourd'hui? C'est heureusement un monde où les gens bougent, où il y a énormément de mobilité, où pour se comprendre, il faut connaître des langues. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a plusieurs solutions. Il y a cette langue qui est l'anglais, qui est devenue la langue connue par la plupart. D'accord. Mais il y a d'autres solutions aussi, parce que qu'est-ce qu'on fait si on abandonne la diversité linguistique? Mais le monde, s'il est beau, c'est qu'il est riche en diversité. Alors on ne peut pas renoncer aux langues. Et notre plaidoyer, c'est en faveur de la maintenance dans l'école, dans l'enseignement de plusieurs langues, dont le français. Maintenant, donc on n'est pas en concurrence négative, parce que c'est tellement riche du point de vue culturel, le français. Il est porteur de valeurs extraordinaires, de belles traditions. Alors on ne peut pas abandonner toutes ces valeurs en faveur d'un pragmatisme qui nous conduit vers un simple instrument de communication.
Une responsable de l'association tchèque des professeurs de français disait que plus que la quantité, le nombre d'étudiants qui apprennent le français, le plus important, c'est la qualité de l'enseignement. Pensez-vous que c'est vrai pour tous les pays?
Oui, c'est vrai pour tous les pays. C'est vrai pour tous les pays. C'est pourquoi on s'investit tellement. Notre premier objectif est représenté par l'amélioration de la qualité de l'enseignement, par des formules innovantes, attractives, en accord avec le public qui change énormément comme profil d'un jour à l'autre. Il y a un écart entre les générations. C'est une réelle gymnastique de s'adapter. Je crois que un des devoirs essentiels du professeur est de rester jeune. Ça veut dire, c'est un enjeu de plus en plus important. Plus le temps passe, plus ça devient un enjeu. Mais quel bel enjeu, n'est-ce pas? Rester jeune, ça veut dire quoi en fait? Non pas imposer sa manière de penser, sa manière de faire, mais essayer de l'adapter à la manière de faire du public auquel on s'est, en l'influençant, non pas en abandonnant les vraies valeurs, mais en essayant de raccrocher le public, de l'inviter, de l'attirer. Voilà, c'est ça. Et ça se fait par le biais du français. On y croit fort.
Beaucoup de Tchèques disent souvent « Oh, le français, c'est une langue magnifique, j'aimerais parler, mais c'est difficile. » Que faire par rapport à ça? Et l'enseignement du français, je veux dire, la popularisation de la langue française, ne souffre-t-elle pas également d'une image un peu négative de la France en tant que telle?
Ben voilà, on tourne en rond parce que, heureusement, ce n'est pas du tout négatif, on tourne en rond parce qu'on revient à la qualité de l'enseignement. Alors, c'est un devoir, celui de se moderniser. Moderniser, ça veut dire, bien sûr, changer sa représentation qu'on a des langues, mais changer aussi la méthodologie de travail. Alors, je vais citer un professeur de l'Université libre de Bruxelles, qui dans une conférence disait, à propos du sujet que vous avez attaqué, les professeurs de français sont souvent comme des pompiers pyromanes. Parce que si on commence à enseigner une langue, à donner une règle et ensuite à énoncer la vingtaine d'exceptions qui suivent, bien sûr que c'est décourageant. Et il faut au contraire profiter de toutes les acquisitions linguistiques qui se trouvent dans le cerveau des apprenants pour les aider à maîtriser, à découvrir, à maîtriser, à intégrer d'autres langues. C'est ça l'enjeu. Ce n'est pas, on n'est pas en faveur des approches normatives, mais on est en faveur d'approches ouvertes qui aillent même dans la direction des compétences partielles. Donc il y a un enseignement des langues très différent par rapport au modèle traditionnel qui est en train de se mettre en place. Quand je dis compétences, parce que selon la représentation traditionnelle, je connais une langue si je peux la bien comprendre à l'écrit, la bien maîtriser à l'oral, à bien produire à l'oral, donc parler, et aussi lire. Si je n'ai pas les quatre compétences que je viens d'énumérer, c'est ce que je ne suis pas bon, je connais pas cette langue. L'idée actuelle, elle est différente parce que chaque individu, d'abord, a des accès différents vis-à-vis des langues. Je peux avoir des acquisitions langagières en regardant des émissions à la télé. Une langue, on la connaît pas seulement à travers les systèmes traditionnels, les systèmes éducatifs de l'école. Comme je le disais, les gens bougent. Alors, je peux avoir des compétences dans telle ou telle langue de manière différente. Je peux comprendre un texte écrit dans une langue. Et en même temps, pour la même langue, être incapable de comprendre à l'oral. Est-ce que cela veut dire que je ne la connais pas? Non, je la connais, mais partiellement. Et je mets en jeu seulement un type de compétence sur les quatre. Voilà un exemple de modernisation et d'adaptation de l'enseignement en fonction, justement, de ce monde qui a changé de configuration.
Pour en revenir au congrès qui va se tenir à Prague, quels seront les grands axes de réflexion? Qu'est-ce que la Fédération internationale attend de ce congrès? Quels sont les objectifs de ce congrès? Qu'est-ce qui doit ressortir?
Le principal objectif, c'est de réaliser des échanges entre les professeurs et des transferts de bonnes pratiques et surtout de pratiques innovantes. Parce qu'on est au cœur même du problème. C'est comme ça qu'on peut attirer d'abord et ensuite fidéliser un public en faisant un travail de qualité. Et l'enjeu le plus important est placé à ce niveau-là.
Dernière chose, forcément vous allez me répondre que oui, mais êtes-vous optimiste ou un peu pessimiste par rapport ou concernant l'avenir du français, généralement la place du français dans le monde?
Bien sûr que je suis optimiste, parce que je crois fort, comme je le disais, aux valeurs que le français porte. Et donc sa place sera toujours essentielle pour le patrimoine universel de l'humanité. Mais je dois nécessairement compléter cette affirmation en disant que finalement, on ne peut pas parler de grandes et de petites langues, parce que toutes les langues sont, chacune à son tour et à sa manière, représente une contribution vraiment essentielle et incontournable et indispensable du patrimoine universel.
Et puis on termine avec la littérature aujourd'hui. Václav Richter vous fait découvrir une auteure de livres pour enfants, notamment Eva Procházková.
Rencontre littéraire. L'imagination, le style captivant, la connaissance de la psychologie des enfants, l'intérêt pour la question fondamentale de l'existence humaine, tels sont les aspects principaux de l'œuvre de la prosatrice et dramaturge tchèque Eva Procházková. Son dernier opus, intitulé « Uzly a pomeranče, nœud et orange », est un livre sur le courage, la responsabilité et le premier amour d'un garçon de 13 ans. Le livre, qui vient de sortir aux éditions Albatros, attire de nouveau l'attention des lecteurs sur cette écrivaine qui sait regarder le monde par les yeux des enfants. Bien qu'elle soit auteure de toute une série d'œuvres pour les adultes, Eva Procházková investit sans doute la meilleure partie de son talent dans la littérature pour enfants et adolescents. Sa propre adolescence n'a pas été facile, car elle est née dans la famille de Jan Procházka, écrivain et scénariste connu, qui est une figure importante de la libéralisation politique de l'année 1968, et qui s'est réduit au silence après l'occupation soviétique de la Tchécoslovaquie. Stigmatisée par ses antécédents familiaux, Eva Procházková, qui se sent attirée par la vocation littéraire, se heurte évidemment à l'hostilité du régime arbitraire et se rend compte qu'elle ne pourra pas écrire ni publier librement. La situation de sa famille aura un grand impact sur le choix de ses sujets littéraires.
Já si myslím, že nic není náhoda, že kdyby člověk se nedostal k něčemu.
Je pense que rien n'est dû au hasard. Si l'on n'arrive pas à une chose par un chemin, on y arrive certainement par un autre. Mon chemin, concrètement, a commencé sous le régime totalitaire. Je voulais écrire à tout prix, mais il était pratiquement exclu de publier des livres pour adultes avec le nom de Iva Prochaskova, fille de Jan Prochaska, qui était persona non grata. Et à ce moment-là, quelqu'un m'a conseillé d'essayer d'écrire une histoire pour enfants. J'avais 21 ans, je n'étais pas vraiment mûre, et je voulais écrire à tout prix de grandes histoires pour les gens mûrs. Mais il m'est arrivé un heureux événement, je suis tombée enceinte, et ma pensée s'est tournée tout simplement un peu plus vers les enfants et vers les souvenirs de ma propre enfance.
Vlastně to moje myšlení se víc posunulo prostě k dětem a ke vzpomínání na moje vlastní dětství.
C'est ainsi que l'écrivaine en herbe écrit son premier livre intitulé « À qui manque une roue ». Elle se rend compte que ce genre de littérature l'amuse et écrire pour les enfants et les adolescents devient son occupation principale, bien qu'elle se permette de déserter parfois ce genre pour écrire des scénarios, des textes pour le théâtre et des contes pour adultes. La littérature pour enfants restera pour elle un refuge sûr pendant toute sa vie. Comme elle n'arrive pas à réaliser ses ambitions littéraires dans la Tchécoslovaquie communiste, Iva Prochaskova émigre en 1983 avec sa famille en Autriche, puis en Allemagne où elle vit et travaille d'abord à Constance et ensuite à Brême.
La vie en Allemagne m'a montré que la littérature pour enfants et adolescents était un genre d'avenir, que les lecteurs demandaient cette littérature, qu'elle devenait un genre respecté et non pas une petite cendrillon dans le monde littéraire, et que ce genre que j'ai choisi par hasard m'offrait de grandes possibilités. J'ai donc récidivé et écrit un autre livre qui a été traduit en allemand et m'a apporté, je ne peux pas dire le succès, mais m'a ouvert les portes des maisons d'édition allemandes. Cela a été décisif. D'une part, j'étais obligée de gagner ma vie. D'autre part, je voyais que mes livres suscitaient des réactions qui étaient souvent très positives. Et je voulais donc continuer dans cette voie.
Ty knížky mají reakce, že naráží na velice pozitivní reakce, a tak jsem u toho chtěla zůstat.
Qu'est-ce que la littérature pour enfants? En quoi diffère-t-elle des livres pour adultes? Y a-t-il des thèmes tabous qu'elle ne peut pas aborder? Iva Prochaskova pense que la gamme des thèmes de la littérature pour enfants peut être très large. Aujourd'hui, Iva Prochaskova vit de nouveau dans sa patrie, écrit et collabore avec Česká televize, télévision publique tchèque. Deux de ses livres pour enfants ont remporté le prix Magnesia Litera, distinction littéraire la plus importante décernée en République tchèque. Elle se rend compte de l'importance de la lecture dans la vie des enfants. Elle n'oublie pas le rôle que les livres ont joué dans sa propre enfance.
Je me rappelle que ce que nous lisions alors était un mélange intéressant. Il n'y avait certainement pas de littérature naïve pour les plus petits. C'était parfois des livres qui dépassaient un peu les possibilités intellectuelles de l'enfance, et je pense que c'était bien. Quand je me heurtais à un passage que je ne comprenais pas, j'en parlais à mon père, on en discutait, et c'est ainsi que je complétais mes connaissances.
Popovídat si s ním o tom, a člověk vlastně si tímhle způsobem spoustu znalostí doplňoval.
C'est la fin de notre émission du samedi. Merci de nous être fidèles. Vous pouvez continuer à nous écouter dimanche avec la dimanche musicale. Et puis, on se retrouve pour les émissions de la semaine dès lundi. Bon vent, ahoy.
Radio Praga.